France Musique.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Carrefour de la Création sur France Musique. Ce soir, on part tous azimuts. Vous en connaissez beaucoup, vous, des compositeurs d'à peine 30 ans qui sont autant joués par les meilleurs ensembles du circuit, Latin Contemporain, Alternance, les New Vocal Soliston ou même notre Philhar bien-aimé, et qui en parallèle est enseignant en musicologie, joue dans un groupe de métal, est passionné d'art plastique et qui depuis peu se met à l'ambiance et à l'électroacoustique. Notre invité de ce soir est un jeune homme aux multiples facettes. Son actualité est souvent riche, mais ces jours-ci, c'est dans le temple de l'art contemporain parisien, à la Fondation Louis Vuitton, que va s'épanouir sa musique, dans le cadre d'un concert des Cris de Paris et de l'ensemble intercontemporain, pour une création en regard de l'exposition autour du maître américain Mark Rothko. Car la musique de notre invité de ce soir s'impose de plus en plus dans les salles de concert. Entre rigueur formelle et recherche constante, elle se garde une bonne place pour la liberté de mouvement sonore et pour une énergie contagieuse, qui ne cache pas son amour pour les musiques amplifiées les plus diverses. Ce soir, nous embarquons donc pour un voyage dans un monde ouvert, en open world, avec Augustin Brault. Bonsoir Augustin Brault.
Bonsoir Thomas.
On l'a dit en introduction, Augustin Brault, vous avez des vies musicales multiples, et d'autant plus lorsque l'on est encore un jeune compositeur. Comment on trouve ses marques et comment on se construit une personnalité dans le paysage musical actuel ?
Je dirais que tout s'est plutôt quand même fait à l'instinct, finalement, en prenant compte de mes envies, des choses que je souhaitais réaliser. C'est-à-dire forcément, en ayant une formation plutôt orientée vers la musicologie, la pratique de la musique écrite, la musique contemporaine, ça reste quand même au centre de mon travail. Mais je me suis pas pour autant interdit d'avoir des petits satellites à côté qui touchent autant les musiques amplifiées que les musiques expérimentales. Mais malgré tout, c'est vrai que la ligne de force principale de mon travail, elle se trouve dans l'écriture. Et ça informe beaucoup plus le reste de mes pratiques que l'inverse, les autres pratiques. C'est aussi une opportunité de partager des moments avec des amis, avec des proches, dans d'autres cadres. Et tout ça finit de manière vertueuse par nourrir ma pratique écrite.
Et quelles sont vos grandes références d'ailleurs ?
Alors, d'une manière chronologique, je dirais que ma découverte de la musique contemporaine s'est faite de manière assez frappante lorsque j'avais 11-12 ans à travers Olivier Messiaen. Et au fur et à mesure, j'ai creusé le dodécaphonisme avec Webern qui m'a beaucoup marqué à l'adolescence, mais surtout Pierre Bouguez. Et notamment ces œuvres tardives qui, quand j'étais adolescent, m'ont beaucoup parlé, notamment Rituel, Exposante fixe, Réponse. Un peu plus tard, forcément, Iron Man, le spectralisme, Crisé, Muraille, et plus récemment, la singularité et le rapport à l'histoire de Klaus Huber m'ont beaucoup marqué, mais j'aime également beaucoup les timbres travaillés par Rebecca Saunders ou encore par Timothy McCormack.
Qu'est-ce qui peut rejoindre tous ces noms que vous venez de dénoncer ?
Je dirais que pour tous ces compositeurs et compositrices, il y a deux choses qui sont fondamentales pour moi. C'est la gestion de la forme. Et dans mon travail, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est-à-dire comment on va arriver à articuler un discours musical au fur et à mesure du temps. Et également le travail sur l'énergie, c'est un travail qu'on peut aussi retrouver chez des compositeurs tels que Yann Robin, Franck Bedrosian, pour parler de compositeurs assez récents. Et c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé, et moi-même en tant qu'instrumentiste, ce travail autour du geste instrumental, qui fait partie lui-même du geste musical, du mouvement, de l'énergie physique. Le fait de capturer tout ça, c'est quelque chose qui m'a paru vraiment intéressant, et c'est vrai que c'est ce qui offre à nos musiques, aux musiques de création, une intensité aussi forte que sexy. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai peut-être plus de mal avec, après, des esthétiques, plus de la répétition, plus de la trance, qui, malgré leur qualité, me touchent moins que des musiques où on ménage des contrastes assez forts.
Alors justement, je comptais évoquer la question de la forme tout de suite. Comment on élabore une forme en musique, Augustin Brault ?
C'est forcément la forme, un travail sans fin. C'est tout d'abord, la forme, c'est un travail de l'écoute et de l'écoute intérieure. Je dirais que le point commun dans toutes mes pièces, c'est qu'elles originent d'un travail d'écoute intérieure, toujours. Pas d'expérimentation à l'instrument, mais j'essaie de passer du temps avec la pièce dès que je sais que je vais être amené à l'écrire, que ce soit par une commande, une collaboration. Et j'essaie de m'imaginer des matériaux, je triture la chose dans tous les sens. Et petit à petit, j'arrive à avoir une idée d'une première partie qui viendra ensuite se greffer sur une seconde, etc. Et une fois que ce parcours formel est à peu près clair dans ma tête, forcément, après, il y a tout mon travail au niveau des hauteurs, au niveau des modes de jeu, au niveau du rythme, qui est un peu plus mathématique, sur lequel j'utilise vraiment le papier pour, à partir de notes qui sont plutôt intuitives, en dériver d'autres.
Est-ce que penser par cycle, ça aide à structurer une forme ?
Ouais, tout à fait. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est assez important. Et c'est vrai que de temps à autre, j'essaye, lorsque j'ai des pièces, surtout des pièces de musique de chambre, de les organiser par cycle. Alors, l'exemple le plus probant de ça, c'est que Cycle Contre-Mouvement, que j'ai fait avec Alternance, qui comporte donc 4 pièces, qui forment un tout qui fait environ 40 minutes, 35-40. Et ça me permet, en fait, une fois que j'ai fini une des pièces, d'arriver à savoir ce que je vais mettre avant, ce que je vais mettre après. En général, j'aime bien commencer par une pièce qui va être un peu au centre du cycle. Et c'est vrai que je ne traite pas du tout la forme de la même manière.
Augustin Brault, vous aimez penser par cycle, pourtant vous venez aussi musicalement du milieu du rock, du métal plus précisément. Et là, pour le coup, on pense plus en forme courte, en morceaux de 3-4 minutes.
Alors, dans certaines formes de métal, oui. Dans le rock progressif, le post-métal, le métal progressif, beaucoup moins. On a souvent des morceaux qui durent plutôt 7, 8, 10 minutes. Et effectivement, c'est sûr que le métal, ça a été une part importante de mon éducation musicale. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de musiciens de la musique contemporaine ont grandi sur une base un peu double métal, musique expérimentale. Et même musique extrême, on pourrait dire, le death metal, le black metal, et musique contemporaine, aussi avec des apports de la noise, de l'électroacoustique. Et moi, c'est sûr qu'avec le groupe dans lequel je joue, c'est plutôt des formats longs. Là, on est en train de finir un EP qui dure 20 minutes, mais il y a que deux titres. Ça emprunte autant à Radiohead qu'à Explosions in the Sky, qu'à la musique contemporaine par certains aspects.
Augustin Brault, comment vous découvrez le métal ?
Alors le métal, ça se passe par mon apprentissage de la batterie, des percussions, quand je suis tout petit, et la médiathèque qui recèle tout son autre trésor. Donc il y a le métal, mais il y a aussi le jazz, il y a aussi Miles Davis, quand j'ai une dizaine d'années, de manière concomitante, au premier disque de Metallica, tout un tas de choses. Et puis un peu plus tard, c'est comme je l'avais dit, Messiaen, Schoenberg, Boulez. Avant ça, il y avait Stravinsky, avant ça, il y a Mahler, Wagner, c'était vraiment... La curiosité pour moi, et c'est aussi quelque chose qui continue à m'animer.
Dans le métal, il y a non seulement des atmosphères particulières, une saturation du son, on en reparlera, mais aussi des ruptures, parfois brutales, dans les pulsations ou dans le tempo. Ces ruptures et ces contrastes, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous influence particulièrement ?
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'avoir grandi en étant adolescent et avoir écouté autant des groupes de métal progressif comme Dream Theater ou des groupes de métal extrême, typiquement je pense à Morbid Angel pour l'aspect plus death metal, pour l'aspect plus black metal, des groupes comme Deathspell Omega, ou même de nos jours par exemple un groupe comme Imperial Triumphant qui mélange le black metal avec le free jazz, c'est des choses qui forcément ont nourri mon imaginaire rythmique. Et c'est sûr que déjà en tant que batteur, percussionniste, forcément c'est des choses qui m'ont touché. Xenakis, c'est aussi un compositeur dont je vais pas parler tout à l'heure, mais qui me marque beaucoup. Bon, après, comme je pense la grande majorité des musiciens de ma génération. Par contre, ce que j'essaie de faire, c'est dans mes différentes activités musicales, de pas faire de mélange vraiment premier degré, c'est-à-dire de pas mettre un énorme solo de guitare dans une pièce de musique contemporaine, ou à l'inverse, de pas mettre un extrait de quatuor à cordes dans du métal, ce serait de très mauvais goût, je pense. Mais c'est évident que l'écoute a influencé, comme pareil, je pense que clairement mon écoute de jazz, de free jazz, a beaucoup influencé mon travail justement sur certains solis qu'on peut retrouver quand même dans mes pièces pour orchestre, notamment avec parfois des instruments seuls qui font des sortes de chorus, ou encore le fait que j'écoute et que je fasse beaucoup de musique ambiante sur l'harmonie, les textures, leur évolution. Donc c'est évident qu'il y a une interpénétration de tous ces médiums. Après, voilà, pour moi, je crois pas trop au collage stylistique à la Schnittke. C'est-à-dire que, évidemment, que les choses se touchent, sont vaporeuses, mais voilà, à mon avis, ça doit aussi quand même rester dans certains champs pour pas être complètement à côté.
Secret mind is driven me
Augustin Brault, vous avez un goût pour les musiques très fortes, immenses. D'où cela vous vient, ces envies telluriques?
Alors, je pense que, bon, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais la découverte de Turangaïga Symphonie, de Messiaen d'ailleurs, par, je crois que c'était par Le Figaro, c'était sur Arte, ça m'a vraiment complètement frappé. C'est-à-dire que, bon, moi je connaissais l'orchestre, ma maman écoute un petit peu de musique classique, voilà, j'entendais les grands airs, les tubes, hein, le Boléro de Ravel, des choses comme ça. Bon, ça me parlait pas spécialement, et j'ai été vraiment frappé par l'aspect, comme vous venez de le dire, théorique. C'est vraiment la grande variété des timbres, la richesse, la complexité des textures qui m'a vraiment frappé. Et finalement, dans mon écriture, c'est vrai que j'utilise pas forcément toujours beaucoup d'instruments, mais j'essaye toujours de les faire sonner comme si j'en avais plus, par l'emploi pour les cordes de double corde, de son complexe au vent. Et c'est vrai que c'est lié à une certaine générosité. J'aime bien les musiques qui sont généreuses musicalement, où il y a beaucoup de couches, où on sent que ça vit, où on sent aussi... encore une fois, une certaine émotion, mais l'émotion, elle peut être très très restreinte. Par exemple, Marc-André, je trouve que c'est une musique, et je pense que beaucoup de gens sont pas d'accord avec moi, qui est extrêmement généreuse, mais elle est dans une retenue tellement extrême que justement la générosité, elle est dans tout ce qui n'est pas dit, finalement, et dans tout ce qui va en émaner, de toute cette spiritualité, de toute cette force, et chaque murmure, chaque micro pizzicato pianissimo vient évoquer justement ce qui n'est pas là. Et donc c'est pas forcément tant une histoire de moyens, une histoire d'accumulation, qu'une histoire vraiment de ce que la musique, elle vient raconter, elle vient dire. Et puis après, il y a différents contextes. Par exemple, c'est vrai qu'on évoquait le métal. C'est une musique qui se double d'un imaginaire aussi, forcément. Moi, je sais que j'aime beaucoup écouter des disques à la maison de métal, peut-être plus que voir en concert, parce qu'on comprend que le groupe a suivi un concept qui n'ont souvent, d'ailleurs, rien à envier par rapport à des œuvres de musique contemporaine, pour certains, à développer un son, une imagerie, des visuels. Voilà, ça peut être le cas aussi. Pareil, je pense à un Jazzman Kamasi Washington pour son album The Epic. Vraiment, c'est un album avec une qualité sont incroyables, qui racontent vraiment une histoire en commentaire de faits socio-historiques. Pour moi, c'est des choses qui sont aussi très importantes, d'avoir quelque chose qui vient raconter une histoire qui a du sens, et en musique contemporaine. Je dirais aussi, ça me fait penser à une interview récente d'Aurélien Dumont, qui dit que finalement, la musique contemporaine, c'est la musique qu'il écoute le moins. Et je suis assez d'accord avec ça, parce que je dirais que ça représente, je pense, un quart de la musique que j'écoute. Néanmoins, pour moi, c'est la musique où on peut aller vraiment le plus loin, dans l'écoute, dans la concentration. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler des contrastes et comment on arrive à accumuler de l'énergie pour la faire ensuite rejaillir. Et je dirais que dans ce cadre-là, je me situe plus près du travail de Franck Bedrossian. Moi, j'aime beaucoup Don Quichotte Concerto, qui est une pièce qui me paraît vraiment une somme de beaucoup de ses travaux sur le timbre. Et en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une pièce qui se limite pas au domaine de la musique, puisqu'elle questionne aussi, alors, à la fois le domaine de la littérature avec l'évocation de Don Quichotte et Sancho Panza, mais également la question de la sociabilité dans l'orchestre, puisqu'on sait tous qu'un orchestre, spécialement ici à Radio France, il y a deux orchestres, est un petit monde social. Et cette pièce, de par l'emploi des deux solistes qui viennent en dialogue, plus une troisième soliste qui est une harpe, qui est pas vraiment soliste, mais un peu quand même, créer des commentaires assez intéressants sur la manière dont on va traiter l'orchestre, la position du chef, la position du soliste. Thank you.
Augustin Bro, on vient d'écouter quelques notes du Don Quichotte Concerto de Franck Bédrossian qui était très contrasté. Est-ce que votre pièce Golem pour contrebasse et ensemble, elle est aussi très contrastée ?
Alors oui, mais surtout c'est une pièce qui est à
qui
mon
a des
sens...
résonances de saturation, je trouve.
Ouais, voilà. Bah en fait, c'est une pièce qui est très jeune. Déjà, je l'ai écrite en 2018-2019, donc j'avais 24-25 ans. Non, je l'ai écrit en 2017, la première version, pardon, c'est la révision. Enfin bref, voilà, vous voyez bien d'ailleurs que j'ai révisé l'année d'après, donc j'étais vraiment pas trop sûr de moi. Et en fait, bah oui, j'étais complètement là-dedans, c'est-à-dire que je faisais un mémoire sur Yann Robin, sur une pièce de justement pour contrebasse ensemble, Asymétriade, au même moment. Et je dirais surtout qu'elle est très contrastée parce que c'est une pièce assez jeune. Hein. Je pense que vraiment, notamment au niveau formel, il y avait plein de choses qui n'étaient pas du tout encore claires pour moi. Donc quelque part, ça fait aussi un charme parce que c'est une pièce très brute et beaucoup de contraste. Et je l'aime encore beaucoup aujourd'hui. Mais c'est sûr que quand je vois ce que j'écris désormais, on est à des années-lumière et j'ai vraiment l'impression d'avoir pris en maturité. Donc elle a ce côté un peu punk qui est rigolo. Et puis en fait, c'est une pièce qui a été reprise assez régulièrement. Donc ça veut dire que ça a un intérêt, mais tout n'est pas forcément très conscient dans ce que j'ai fait de cette pièce. C'était un peu l'envie du moment.
Est-ce que Golem, c'est un lien avec peut-être le roman de Meyrinck ? Il y a des sources littéraires derrière ?
Non, pas du tout. C'était vraiment un lien à la notion plus générale du golem qui est façonné par son maître, et c'était ce que je voulais faire avec la matière sonore, c'est-à-dire avoir vraiment un son qui soit extrêmement ductile. Et puis c'est Nicolas Cross, donc forcément j'avais bossé avec lui, et je pense que ce côté très saturation énergie est venu de tous les sons un peu étranges qu'il m'a montré. Et donc je sais pas, ça m'allait bien, c'est un peu une sorte de golem. Nicolas, il fait 2 mètres, il est très impressionnant, donc ça collait bien avec dans mon imaginaire en tout cas.
Augustin Bro, on a l'impression, lorsque l'on écoute votre musique, qu'il y a quelque chose d'hyper lyrique qui semble vouloir déborder. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça?
Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. Alors je pense que c'est dû au fait que ma musique part, encore une fois, comme je l'ai dit, vraiment de l'écoute à l'origine. Et donc forcément, les choses que j'entends... Alors, évidemment qu'il y a des choses plus computationnelles, plus algorithmiques, lorsque je travaille vraiment sur des systèmes harmoniques, justement du contrepoint, des choses comme ça. Mais à l'origine, c'est vrai que la plupart de ce que je... Enfin, 90%, 95% de ce que j'écris est vraiment entendu à la racine, donc ça doit être peut-être une âme un peu lyrique, c'est possible. Et ensuite, après, ce sont les outils qui me permettent de finaliser mon travail... Voilà, viennent beaucoup plus tard, donc je pense que ce lyrisme vient du fait que ce soit une musique qui soit assez, enfin qui soit même complètement entendue, et puis oui, je pense que voilà, au fond de moi, j'ai ce côté-là où j'aime, voilà, moi je suis très touché, je peux autant être touché par une symphonie de Mahler, pour moi Rituel de Boulez, ça me met l'arme aux yeux, tellement je trouve que c'est une œuvre qui est puissante, Quatre chants pour franchir le seuil, j'en parle même pas, et pour moi c'est des pièces qui sont très lyriques, enfin, hein, comme je peux ressentir la même chose quand je vais entendre un chanteur d'Americana avec sa guitare pas très très juste qui va chanter sur son quotidien mais d'une manière tellement touchante. Voilà, je pense qu'il y a, différentes manières vraiment d'exprimer un certain lyrisme. Moi, ce qui me touche, c'est l'intimité en musique. C'est la sensation qu'on puisse vraiment ressentir que la musique est près de nous, qu'elle nous entoure, qu'elle nous enveloppe. Et la sincérité. Et je pense qu'à partir du moment où on arrête de faire les choses avec sincérité et qu'on calcule, c'est plus la peine. Et donc c'est pour ça, ce lyrisme, je pense qu'aussi on peut le retrouver dans... au-delà des esthétiques, dans beaucoup de choses. Et même si on a une écriture très complexe, en tir de ton, c'est pas tant les outils qui comptent que la sincérité avec laquelle on les emploie.
Alors Augustin Bro, à propos d'influences multiples, est-ce que vous avez besoin des autres arts pour nourrir votre propre création?
Moi je pense que oui. Honnêtement, j'ai toujours été curieux. J'ai toujours eu envie de découvrir. Les arts visuels, ça m'a vraiment parlé très rapidement. Et dans mon master, j'avais une mineure sur l'histoire de l'art. Donc c'est vrai que j'en ai fait sous ces formes assez diverses et variées, autant des formes très contemporaines que par exemple l'architecture médiévale. Bon, même si je suis loin d'être un spécialiste à ce sujet. Et ça a toujours influencé mon imaginaire. Et encore une fois, ce qui fait le lien entre les formes d'art, mais aussi la philosophie, même que ce soit la métaphysique, la philosophie, la psychanalyse, c'est dans tout ça, c'est le geste, et que ce soit un geste intellectuel ou un geste physique, pour moi, c'est ce qui est le moteur dans toute création. Et dans la musique, au-delà de l'avoir vraiment étudié au sein de mon travail de musicologue, de manière assez empirique, j'ai toujours ressenti la nécessité de faire cohabiter mon travail de composition avec d'autres formes d'art, que ce soit des textes, des images, pas en correspondance immédiate, mais plus en correspondance de gestes, en correspondance de pensées finalement. Et en termes de gestes artistiques, voilà, c'est clair que des peintres comme Paul Klee, par exemple, j'ai écrit une pièce autour de Paul Klee il y a 7-8 ans, et à l'époque, justement, les petits tracés de Paul Klee, la manière dont il disposait les petits points sur la toile me donnaient de nombreuses indications par rapport à la manière dont je voulais poser des points musicaux, la manière dont je voulais appliquer une certaine granulation à mes gestes au fur et à mesure du temps. C'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ensuite, Saïd Fombouy, dans une pièce que j'ai écrite pour percussion et percussion ensemble, où j'essayais vraiment de retracer les lignes de Fombouy, ces fameux gestes complètement instinctifs, à mi-chemin entre le dessin, la graphie. Il y avait en fait un brouillage qui m'intéressait beaucoup. Et voilà, pour chaque peintre, il y a des inspirations. Kiefer, c'était la monumentalité, et je l'ai mis en lien dans Cathédrale avec le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Et justement, c'est cette étincelle créatrice et cette volonté justement d'aller toujours plus loin, mais à quoi bon ? Ouais, y a plein de personnes.
Qu'est-ce que la peinture peut donner comme leçon à un musicien ?
La peinture, elle travaille dans l'espace. Et le musicien, je pense que s'il arrive à transcrire le tracé du peintre en temps, pour moi, c'est la meilleure leçon qu'il puisse en tirer. Dans l'occupation de l'espace, comme nous, on peut occuper le temps. Alors, ça fait un peu cryptique, hein, dit comme ça. Mais comme je l'ai dit avant, par exemple, chez Paul Klee, c'est assez évident. On a la géométrie qui vient justement partitionner l'espace. Par exemple, chez Richter, l'espace, il le travaille par une technique de dragage avec ce qu'il appelle un raquel, donc c'est une grande planche de bois qui va draguer sur la surface de la toile pour déplacer de la peinture. Et en faisant ça, peut-être que on peut aussi en déduire une analogie que le matériau, nous aussi, on peut le draguer, on peut le déplacer d'un point à un autre en l'étirant, et une sorte de dissolution, mais qui s'accomplit par un moyen extrêmement physique. Frankenthaler, il y a beaucoup cette question des lavis de différentes masses qui viennent se superposer pour créer un tout. Donc il y a la question du floutage, la question de la dissolution. Et moi, c'est ce que j'avais essayé de faire dans cette pièce, avoir vraiment une sorte de dissolution entre l'intervention des différents groupes. Mais d'ailleurs, dans cette pièce, il y a aussi une autre influence qui est celle de Frank Bedrosian, encore une fois, que je salue. Donc, j'avais écouté une de ses pièces pour orchestre, c'est Twist, pour orchestre électronique. Et donc, j'écoute, et c'est une pièce qui, formellement, m'avait beaucoup marqué. Ça a beaucoup questionné mon rapport à l'utilisation des cadences dans la forme, et c'est quelque chose que je fais souvent. Et voilà, c'était un peu des moyens pour moi de me questionner sur aussi quel est le rôle de l'instrumentation et de l'orchestration, dans un second temps, dans ma conception formelle. Donc ça, c'était quelque chose que la peinture m'a beaucoup amené.
Augustin Brault, vous êtes un fan de la complexité américaine. Je pense par exemple à Aaron Cassidy et de sa pièce d'après Francis Bacon. L'œuvre s'appelle End of Scream. Est-ce que Cassidy opère de la même manière que vous avez essayé de retravailler Clay dans le Little Adventurer qu'on vient d'écouter?
Alors pour Aaron Cassidy, c'est vraiment très différent parce que c'est un compositeur, comme vous l'avez dit, qui s'inscrit dans le courant de la New Complexity. Donc on est clairement dans l'héritage de Fernie Hough, encore plus de Richard Barrett. et de Klaus Kauber. C'est des compositeurs qui travaillent vraiment sur une écriture qui est absolument paramétrique. Donc là, on n'est même plus dans le sérialisme intégral, c'est des gens vraiment qui utilisent des matrices de calcul des hauteurs. Cassidy, il a dépassé ça même maintenant avec des techniques de notation qui sont assez impressionnantes sur vraiment la gestion des différents membres. Et voilà, c'est un compositeur qui, de manière un peu analogue à ce que je fais, a des influences à la fois dans l'art pictural, et par contre je pense que c'est là où on se retrouve, mais aussi dans les musiques extra-savantes, c'est-à-dire lui, il est très très fan de jazz, de free jazz, et il utilise ça encore une fois d'une manière un peu détournée, c'est pas frontal, c'est-à-dire qu'il écrit pas des pièces pour big band ou il met pas des solos de saxophone, mais il fait recours soit à l'instrumentarium, soit à des modes de jeu, soit à des fragments... Et donc, il y a ce côté-là qui est très intéressant chez Aaron Cassidy, d'un travail d'une grande, grande précision. Et Cassidy, il va de plus en plus dans cette voie. Il a inventé un système, enfin, alors, je sais pas s'il l'a inventé, mais en tout cas, il l'utilise de manière assez, assez intéressante, un système de gestion du tempo, et notamment de la battue. Il est chef d'orchestre lui-même, donc il propose des techniques qui sont assez intéressantes avec des changements de tempo, en fait, au fur et à mesure au sein même des mesures. Par exemple, sur les mesures en 2-4, on peut avoir deux temps à un tempo différent, mais c'est indiqué avec une notation graphique qui donne une proportionnalité, c'est pas absolu, alors je pense que lui il voudrait que ça soit, mais qui lui permet vraiment d'avoir une fluidité dans le tempo, et ça à mon sens c'est quelque chose qui est très intéressant à aller chercher chez lui. Et récemment il s'est inspiré d'autoportraits photo de Gerhard Richter dans un cycle, j'en ai oublié le nom, voilà, c'est A Way of Making Ghosts de Quatuor, donc qui sont inspirés de photographies que Gerhard Richter a ensuite peintes. Et donc il y a toute une réflexion par rapport à la question de la mémoire, par rapport à la question justement de comment on peut poser une seconde couche sur une première couche, à la fois l'altération mais aussi garder ce qui existe. Voilà, c'est très intéressant et c'est très musical.
Augustin Brault, la peinture et les arts plastiques, est-ce que ça ne risque pas de figer l'inspiration quelque part? Est-ce que d'avoir ce support comme inspiration, ça ne présente pas un risque de figer son inspiration?
Alors, je dirais qu'en fonction de chaque pièce, l'inspiration est assez différente. Effectivement, étant donné que c'est quelque chose qui me passionne, ça revient quand même vraiment souvent. Néanmoins, j'essaie surtout à chaque fois que je commence un nouveau projet d'avoir une source d'inspiration qui soit variée. Ça peut être aussi bien la littérature, ça peut être aussi des pièces qui sont simplement pour répondre à un besoin musical, une nouvelle technique, explorer une nouvelle direction, quelque chose que j'ai pas encore fait. ou ça peut encore être de la littérature. Donc, comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est surtout, j'essaye de me fier un peu à mon instinct et de faire part de choses partagées avec les gens, des choses auxquelles je suis sensible, et j'évite de trop calculer finalement les influences. Donc voilà, non, j'essaye vraiment de penser chaque projet dans sa singularité.
Alors, je vous dis ça car j'aimerais évoquer avec vous une pièce un petit peu particulière dans votre catalogue. C'est Cornucopia. Qu'est-ce que ça veut dire, Cornucopia ?
Alors, Cornucopia, c'est la corne d'abondance. Et cette pièce, c'est vrai qu'elle est un peu particulière. Elle est pour voix d'homme et ensemble. Elle a été créée par Ensemble de Deuxem sous la direction de Guillaume Margue il y a un peu plus d'un an. Et c'est une pièce qui, justement, prend un peu contre-pied des sources d'inspiration plutôt picturales, philosophiques, pour s'inscrire plus dans une optique de commentaire social. Et la cornucopia, c'est finalement donc cette corne d'abondance, le toujours plus aussi de notre société et des nouvelles pratiques du travail, les fameux bullshit jobs, les journées qui ne finissent à pas d'heure, avec vraiment la culture du vide au travail, de la productivité, avec les milliardaires qui s'enrichissent avec les dividendes pendant que les employés se tuent à la tâche. Et c'est vrai que cette pièce, elle a été aussi... Je l'avais en tête depuis un petit moment, mais elle a été malheureusement confortée par la perte d'une amie liée aux conséquences d'une entreprise aussi violente qui peut vraiment faire sombrer les gens dans un mal-être extrêmement profond. Et le fait de voir autour de moi beaucoup de gens qui souffraient de milieux de travail qui sont brutaux, violents et qui malgré tout doivent continuer à pas lâcher ce boulot pour leur survie. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué, et c'est vrai que moi je me considère extrêmement privilégié de pouvoir travailler dans le milieu de la musique, de l'enseignement, de la recherche. Et ce sont des métiers qui, malgré leurs difficultés qui peuvent être inhérentes, hein, c'est-à-dire une certaine précarité, le fait de jongler avec plein de tâches, s'inscrivent quand même dans des environnements qui sont plutôt bienveillants. Donc voilà, c'était ma manière, peut-être un peu futile, hein, mais de témoigner mon indignation contre ces pratiques et voilà, d'exprimer ma colère vis-à-vis de toutes ces choses qui font que brimer les êtres humains.
Et alors, Augustin Brault, vous avez dit dans une interview sur le site Anaclase en avril 23 que même si vous ne souhaitiez pas jouer au compositeur engagé, pour le dire grossièrement, et là je vous cite, « Comment composer dans son coin tandis que les CRS frappent dans les rues, que la BRAVEM éborgne des manifestants ? Quand on a 30 ans en France, comment le climat social influe sur la production d'un artiste ?»
Alors c'est évident qu'on peut pas y être insensible. Ça, c'était quelques mois avant les événements avec Amanda Nawel, des choses comme ça. On voit très bien qu'on est confronté à, principalement, parce qu'il y en a d'autres, à deux guerres. Voilà, c'est une réalité qui nous entoure. Je pense que c'est aussi difficile de faire abstraction de ça. Et pour moi, on peut pas faire abstraction de tout ce qui se passe actuellement et de la réalité. Enfin, on voit très bien l'inflation. Je pense que il suffit de sortir dans la rue pour voir que vraiment il y a jamais autant eu de personnes qui sont en difficulté. Et après, il y a le choix de la manifestation de tout ça dans la musique. Soit on a envie de le montrer et ça prend un rôle vraiment prégnant. Soit on garde pour soi, mais c'est quand même là. En tout cas, pour moi, c'est quand même là. Après, voilà, je suis une personne assez réservée et c'est sûr que, évidemment, que ça imprègne mon travail et un sentiment de révolte, d'incompréhension, de tristesse, pour ne pas dire de désespoir et de désillusion. Mais je sais qu'aussi, à mon échelle, je peux pas changer grand-chose. Donc, voilà, j'essaye juste... je pense qu'en fait, la manière dont je peux m'investir... c'est pas par le fait que je dédie une de mes pièces à X ou Y cause, mais plutôt le fait que je m'investisse en tant qu'enseignant, que je travaille avec des jeunes sur des actions de valorisation, comme je vais le faire bientôt par le biais de la mise en circuit, dans des ateliers. Voilà, essayer de communiquer aux jeunes générations l'amour de la création, la curiosité, et c'est des valeurs qui nous portent aussi vers l'autre finalement. Quand on est curieux d'autres musiques, on est curieux d'autres cultures, on est curieux d'autres personnes, et on se met pas des œillères et on cherche à accepter chaque être humain dans sa singularité et sa beauté.
Corne si vaste, quel miracle par vous se donne. Ô corne chasse qui résonne tant de choses au soupir du ciel. matin, je me suis retrouvé paralysé dans mon lit, impossible de me lever. Je ne me souviens même plus comment j'ai réussi à atteindre le téléphone. J'ai été arrêté un mois, puis deux. J'ai essayé d'y retourner, mais je ne pouvais pas faire face. J'ai plusieurs fois pensé au suicide. La société ne fait pas de cadeaux. On doit être combatif au risque de passer pour un faible. Et surtout, ne rien lâcher. 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 Ne rien lâcher.
Augustin Brault, vous ne lâchez rien à tel point que vous êtes autant compositeur qu'enseignant-chercheur, vous l'avez dit, c'est quelque chose qui vous tient à cœur?
Ben en fait, pour moi, la pratique musicale, elle pouvait pas s'inscrire, en tout cas, dans, encore une fois, pour faire écho un peu à la question précédente, dans la cité sans être conscient de ce qui s'était passé avant moi, mais aussi ce qui se passe autour de moi. Et c'est vrai que moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai pas fait les grandes classes de composition du CNSM de Paris ou de Lyon, ni même d'aucune orchestre. En fait, j'ai fait une classe de composition un petit peu à Poitiers. J'ai fait des masterclass à IRCA, mais après je me suis formé un petit peu à droite à gauche avec Martin Matagon, avec Yann Romain. Mais j'ai une formation qui est plutôt autodidacte malgré les cours d'analyse, d'harmonie, etc. Et par contre, bah j'ai fait une formation en musicologie, j'ai fait une licence, un master, puis un doctorat. Et ça partait vraiment d'une volonté d'éviter de trop me centraliser sur mon propre travail, mais plutôt de me dire que, voilà, c'était, moi, ce qui m'intéressait, c'était la musicologie contemporaine, même si, évidemment, les autres périodes requièrent toute mon attention également. Mais, c'était important pour moi de savoir vraiment ce que faisaient mes contemporains, de comprendre, pour aussi arriver à mieux me placer en tant que jeune compositeur dans cet écosystème. Donc voilà, j'ai eu la chance d'obtenir un contrat doctoral de la région Nouvelle-Aquitaine entre 2018 et 2021. J'ai soutenu ma thèse en 2021. Et ensuite, j'ai enchaîné avec diverses responsabilités de recherche au sein de différents laboratoires CNRS, IREMUS, qui est Sorbonne Université CNRS à Paris, où je travaille encore, et le Consortium Musique A2, qui est un consortium de musicologie numérique. Je suis vraiment à part égale, autant chercheur que compositeur, et c'est quelque chose qui est très important pour moi. En plus de mes sources d'inspiration extérieures, ça me permet vraiment de découvrir plein de champs de réflexion. C'est quelque chose qui est très riche. Et encore une fois, ça permet d'inscrire le compositeur dans la cité. Et pour moi, c'est très important. On sait que voilà, la grande majorité des compositeurs ne vivent pas de leur composition. Et moi, ça me va très bien. Et c'est même pour moi une force vraiment d'avoir à côté toute cette ressource intellectuelle de par vraiment l'émulation entre collègues, entre chercheurs, la découverte de sujets, de nouveaux outils, de nouvelles disciplines. Et forcément, qui dit recherche dit aussi enseignement. Et j'ai la chance de pouvoir enseigner dans des contextes très variés. Et donc, cette variété, ça m'apporte beaucoup. Et ça permet vraiment aussi de se connecter à un écosystème. Donc, c'est très intéressant. Et comme ça, on est vraiment aussi au plus près de ce qui se passe et pas seulement un peu dans la tour dorée du compositeur.
Alors, cette variété tous azimuts, on en a parlé en introduction de cette émission, et elle me fait penser que vous venez même de sortir un single baptisé Catachronie, une musique ambiante. Hein, c'est un morceau paru sous le pseudonyme Oriemis. Qu'est-ce que ça veut dire, Oriemis?
Alors, Oriemis, c'est une référence à un album de Tigran Amassian, que vous devez certainement connaître, qui est un jazzman, et il a écrit un album justement de musique qui lie piano et voix, et c'est quelques mots que j'ai choisis parmi les textes de ses chansons, et ça évoque une sorte de soleil ou d'aube hivernale.
Est-ce que de faire de la musique électronique, de la musique ambiante, est-ce que ça situe le compositeur dans la cité d'une autre façon ?
Alors, je dirais que c'est pas tant l'esthétique qui va faire la différence, c'est que dans ce projet-là, il y a une question d'interprétation aussi. Et en fait, la musique ambiante, c'est une musique que j'écoute depuis très 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 longtemps. Vraiment, c'est une musique qui m'accompagne, alors vraiment, depuis les Harold Budd et les Brian Eno. Et même dans une moindre mesure aussi la musique électroacoustique, hein, forcément Bernard Parmigiani, c'est un compositeur que j'aime beaucoup, mais en fait en tant que compositeur contemporain, on aborde souvent la question de l'électronique dans les œuvres par un rapport très frontal à la technologie. Donc forcément, c'est les patch max et bah comme j'avais pu le dire dans des interviews ou les années précédentes, c'est vrai que moi ça me fait très peur. Parce qu'en fait, le patch max, on s'en rend compte maintenant que pour en fait recréer des pièces qui ont été créées il y a 20-30 ans, il faut détricoter les patchs, ça prend un temps fou, et c'est très compliqué, alors que finalement, avec l'usage d'autres outils, on pourrait arriver à des résultats, et c'est sûr que moi, j'écoutais des disques d'ambiance avec des compositeurs bah, qui ont des synthés modulaires, qui ont des synthés type Prophet, voilà, des tape echo, du physique en fait, du matériel sonnant et trébuchant, et bon, moi, je me disais, bon, bah c'est moi, j'aime bien ces sons-là, mais pas dans mes pièces en fait. Et puis bon, bah j'ai un peu sauté le pas il y a 2 ans, j'ai commencé à investir un peu dans des synthés et surtout à composer des choses, et c'était vraiment mon plaisir personnel, voilà, de composer ces choses. Et en même temps, je développe une pratique d'interprète, puisque c'est des choses que je joue vraiment avec mes synthétiseurs, avec de la guitare, et c'est super important pour moi. Et finalement, contrairement au métal où là pour le coup il y a vraiment ce côté où c'est vraiment le pas de côté complet avec les amis de la fac, ou même si c'est une influence, il y a pas de porosité. Là, il y a une vraie porosité parce que, par exemple, je travaille sur une pièce pour ensemble intercontemporain et la mise en circuit, et je réalise une électronique qui sera déclenchée en live, mais je l'utilise avec des outils qui sont des synthés modulaires. J'ai aussi un duo d'électronique, mais vraiment électroacoustique cette fois-ci, qui est très très porté sur des créations électroacoustiques spatialisées avec Estelle Sport, où on a une création au lieu multiple à Poitiers qui est un au lieu de la création expérimentale, qui s'inscrit un peu plus dans les esthétiques type GRM et des choses comme ça. Donc cette redécouverte de l'électronique, de la musique ambiante expérimentale, a été pour moi un moyen de vraiment avoir une pratique d'interprète compositeur, de croiser les deux, qui me permettent vraiment de m'exprimer à 100%.
Catachronie partie 1, le dernier single du projet électronique de Augustin Bro, alias Oriemis. Ça vient tout juste de sortir. Et l'album complet est prévu pour quand?
L'album complet sort le 22 mars. Et justement, j'ai une résidence à Césarée pour préparer, donc centre de création à Reims, pour préparer notamment un concert à Utrecht le 14 avril au sein de la soirée Modulation, qui est une sorte de petit festival bimensuel qui est dédié aux musiques justement interprétées sur synthétiseurs modulaires, ambiantes, expérimentales.
Et on rappelle, Augustin, votre actualité. Dans quelques jours, le 8 mars, sera créée votre nouvelle œuvre pour violon seul, In Figure, inspirée par l'exposition Marc Rothko à la Fondation Louis Vuitton. Ce sera dans un concert assez monumental de l'ensemble latin contemporain avec les Cris de Paris, dans lequel on entendra, entre autres, le monument, la Rothko Chapel de Morton Feldman. Merci beaucoup, Augustin, c'était un plaisir.
Merci beaucoup, Thomas, plaisir partagé.
Au carrefour de la création ce soir, il y avait à la technique Éric Boisset, une émission préparée par Colline Redon, une réalisation de Fanny Constant.
À réécouter sur francemusique.fr.